toutes et à tous et bienvenue dans notre deuxième journée de nos déambulations sur les fêtes normandes. Nous avons installé notre studio mobile au pied du Beffroi afin de rencontrer les acteurs de cet événement, partager durant cette émission des questions de cinéma, de festivités, de tourisme, d'animation et bien entendu de gastronomie parce qu'on aime ça, nous sommes gourmands et puis bah voilà quoi, ça plaît à tout le monde ça normalement la gourmandise. En tout cas, nous voici partis pour une heure de direct avec les opérateurs de cet événement. Pour Radio Propulser, cette émission, c'est encore une équipe de choc qui a travaillé, à savoir nos amis Jean-Jean et Mireille au reportage d'investigation. Nous avons l'ami Damien qui est au micro, l'ami Pignon à la réalisation.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Vous écoutez Principe Actif, à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Et au sommaire de cette émission, nous aurons l'occasion de parler camembert et caler avec nous un grand maître de la confrérie du camembert. S'il existe un symbole de la Normandie, c'est peut-être bien celui-là. Donc nous aurons l'occasion de devenir incollables sur ce produit. Nous parlerons également cinéma parce que vous avez suivi, c'est le thème de cette édition des fêtes normandes, le cinéma. Nous parlerons cinéma avec les techniques en fait, ce qui se passe du côté de la technique du cinéma, à savoir le doublage, le bruitage. Nous parlerons super-héros, bien entendu. Mais tout de suite, pour ouvrir, nous recevons l'Office du tourisme de Deauville. Deauville est la ville invitée d'honneur sur ces fêtes normandes. Damien, tu les as croisés dans cette tente, la chapitante des offices.
Ah, il y a deux. Bonjour à toutes et tous. Oui, il y a effectivement deux espaces qui sont dédiés à des territoires et des communes. Je crois que c'est à peu près 40 territoires et espaces qui sont présents sur site et qui promotionnent leur ville, leur région, leur espace, et tout le monde est issu forcément de la Normandie. À l'occasion de cette édition des fêtes normandes, on a une ville qui était à l'honneur plus qu'une autre, c'est la ville de Deauville. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est une ville qu'on a, nous, Ébroïciens, mais aussi habitants du territoire, que l'on connaît peut-être sans connaître, en fait, puisque c'est une terre réflexe pour s'aérer l'esprit le week-end, et des fois en semaine, lorsqu'on peut. Mais je suis ravi, en tout cas, d'avoir en ma compagnie Chloé et Manon et Louise, Marine et Louise, pardon. Bonjour, mesdemoiselles.
Bonjour, bonjour.
Merci parce que je suis arrivé ce matin comme un cheveu sur la soupe en disant ouais, j'aimerais bien parler avec vous. Il y avait monsieur le maire hier qui aurait été intéressant, mais il était sollicité de toutes parts. Et puis, avez-vous, mesdames, qui êtes. Vous avez un statut particulier, en tout cas une appellation qui est assez atypique. On va redonner aussi le nom qui n'est pas une office de tourisme, ouais, mais un centre touristique d'information. On est comment ?
Alors, c'est un bureau d'information touristique, puisque nous en avons 6 sur notre territoire. Nous avons 12 communes sur le territoire de Deauville, donc chacun a son petit bureau d'information.
Ça, c'est 12 communes en fait qui représentent l'interco, hein, c'est ça, de Deauville.
Voilà, Cœur-Côte-Fleury.
Il a ce nom, c'est joli.
Oui, Cœur-Côte-Fleury.
C'est ouais. Très joli ça, dites-moi. Et donc voilà, je voulais absolument qu'on aborde un petit peu Deauville, qu'on explique un petit peu ou qu'on se rappelle au bon souvenir que des attraits de cette ville. Parce que je l'ai dit, nous, c'est vrai que vous êtes envahis de beaucoup de gens de l'Île-de-France, hein, très souvent, tout au long de l'année ou après la retraite parfois, mais très souvent le week-end. Mais les Eurois aussi se déplacent et vont sur Deauville. On a des réflexes. On a bien sûr la côte, on voit très bien. Là, on va pas refaire l'histoire. Mais c'est vrai qu'on oublie trop souvent les hippodromes. Et puis ce beau salon, ce beau festival du film, qui est celui de Deauville. Peut-être que c'est ça par lequel on va commencer. Est-ce qu'on peut en parler quelques instants? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce festival Capignon-sur-Rue? Est-ce qu'il ressemble à celui d'aujourd'hui, cet événement un petit peu, ou pas du tout, puisqu'on est plus dans la projection et un jury?
Oui, alors donc c'est un festival grand public qui aura lieu d'ailleurs l'année prochaine du 4 au 13 septembre 2020. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, dans le cadre des fêtes normandes, nous faisons gagner tout au long de la journée des passes.
Cool.
Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand. Donc voilà, vous avez un jury et plusieurs projections de nouveaux films américains et aussi d'anciens films. Et donc à cette occasion, il y a des films qui sont primés par la ville de Deauville ou par le public.
Alors, naïvement, j'ai pas connaissance qu'il y ait plusieurs cinémas à Deauville. J'en vois un qui est établi, hein, qui fonctionne tout au long de l'année.
Le cinéma Morny.
Comment on procède alors du coup? Est-ce qu'on installe un chapiteau géant? Est-ce que on fait du plein air? Comment ça se passe?
Alors, il y a 3 salles de projection pendant le festival du film américain. Donc vous avez le cinéma Morny qui est le cinéma de Deauville. Le cinéma du Casino Barrière de Deauville qui est ouvert à l'occasion. Et vous avez également le Centre International de Deauville qui accueille notamment les avant-premières et également le Tapis Rouge.
D'accord. Alors c'est différent, on est vraiment sur un festival. Là en l'occurrence les Fêtes Normandes qui font la part belle au cinéma, il y a plein de stands, plein d'activités interactives. Là on est vraiment sur de la projection et des rencontres parfois avec les réalisateurs ou acteurs.
Voilà, alors lors des avant-premières, on peut apercevoir les réalisateurs et les équipes de tournage. Après, vous avez des hommages qui sont faits sur les célèbres planches de Deauville avec l'inauguration des cabines. Et sinon, vous avez les conférences de presse, mais ça qui sont réservées aux journalistes.
Les cabines du coup de Deauville, elles sont célèbres, elles ont toutes les noms de comédiens célèbres. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des invités qui viennent sur le festival, on rajoute une petite cabine avec le nom. Comment ça se passe?
Voilà,
du coup
alors,
je suis assez curieux de cette histoire de cabine.
Alors par exemple, cette année, il y a Kristen Stewart qui est venue inaugurer sa cabine. D'ailleurs, venez prendre une photo sur notre stand puisqu'il y a un photocall et vous pouvez inaugurer votre cabine.
Ah, c'est rigolo que vous ayez.
Si vous n'avez jamais été à Deauville, du coup, vous photographiez sur les planches mythiques de Deauville. Et ça vous donnera peut-être l'envie de venir voir les vrais, du coup.
Elles en ont démonté 2 mètres carrés pour les ramener ici.
Ouais. On a aussi des barrières. Hein. Vous pouvez aussi venir. On pourra pas mettre votre prénom dessus, mais du moins, il y aura de quoi vous photographier avec.
Très bien. Je me faisais cette remarque-là. Plus que d'autres villes de la région, c'est vrai que Deauville, très large dans les populations qui sont intéressées par passer par Deauville. On imagine très facilement un raccourci qui est pris que des touristes étrangers, s'ils veulent passer par la Normandie, vont forcément passer, bien sûr, par le Mont-Saint-Michel, mais par Deauville, avec ses différents attraits. Est-ce que du coup, cette spécificité, cette caractéristique, d'asiatique, d'Européens, mais aussi de gens du monde entier, fait que dans votre travail au quotidien, mais aussi dans la signalétique peut-être à Deauville, on a abordé la chose d'une manière très précise ou particulière?
Alors, la plupart des membres de nos équipes pratiquent l'anglais, puisqu'effectivement, on a une clientèle internationale. Et sur notre territoire, on a plein d'activités qui sont diversifiées. Par exemple, fin octobre, vous allez avoir la fête de la coquille Saint-Jacques à Villers-sur-Mer. Nous, on va accueillir à Deauville le festival Planche Contact, qui est un festival de photographie. Donc, on a plein de choses diverses et variées sur l'intégralité de nos territoires. Les chevaux, la pêche à pied, le paradis des enfants à Blonville. On a plein de choses qui attirent tout type de personnes.
Et vous avez aussi d'ailleurs sur notre stand le Paléospace qui est donc présent pour vous éventuellement faire gagner des entrées. Et du coup, c'est le musée des dinosaures puisque du coup, Villers-sur-Mer est une ville qui est connue pour tout ce qui est fossiles et archéologie, du coup, paléontologie plutôt. Du coup, vous pouvez éventuellement venir tenter de remporter des entrées pour le musée.
Ah ben là, si on vient vous voir, on prend l'information, obtenir des plans des dépliants, mais on peut gagner des passes pour le festival de l'année prochaine du film américain et aussi pour le Paléospace.
Exactement, vous pouvez éventuellement même venir se passer un séjour complet sur notre territoire, parce qu'il y a, comme le dit Chloé, il y a énormément de choses à visiter et à faire.
Ouais. C'est vrai que la période estivale, vous me le disiez en micro, hein, vous me disiez avril à quoi, septembre-octobre là,
oui,
en ce moment.
Oui, tout à fait. Avec
des marchés quasi quotidiens, je veux dire, ça brasse tellement de monde c'est une telle attractivité que vous êtes obligé de gonfler les effectifs, d'augmenter les équipes, ou est-ce que tout au long de l'année, en fait, déjà, il y a une solide base
Après, on est des permanents, bien évidemment, sur nos bureaux. Après, on a des saisonniers pendant la saison. Après, c'est vrai qu'à Deauville, vous avez le marché tous les matins pendant l'été. Vous avez des marchés nocturnes à Villers. Enfin, il y a beaucoup d'animations. Mmh.
Et puis les hippodromes, c'est vrai qu'on oublie trop souvent, c'est de plus en plus de gens que cela convertit ou que cela chatouille,
oui, hein,
permettez-moi
cheval,
l'expression,
oui.
Le cheval, oui. ce bel animal. Est-ce que du coup c'est aussi un temps fort? Alors je ne veux pas de proportion, on n'est pas sur des statistiques, mais est-ce qu'on sait que ça fait vraiment partie du champ et de la visibilité de Deauville et surtout de l'intérêt qu'on peut porter à cette ville à travers ces courses équestres? C'est vraiment quelque chose de fort? Est-ce qu'on est obligé de parer, d'aménager, je ne sais pas, ben, circuit, de faire des propositions groupées d'accueil logement, mais en même temps d'activités et d'assister à des courses. Est-ce que ça a une importance importante, enfin voilà, une importance importante, je vais me répéter, pardon, privilégiée ou particulière, pardon?
Alors, le cheval fait partie de l'identité de Deauville, ça c'est indéniable. Ça fait partie d'ailleurs de notre circuit découverte qu'on propose à l'Office du Tourisme. Après, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Les gens ne le savent pas toujours sur les hippodromes. D'accord. Donc c'est vraiment, même si on n'a pas forcément envie de parier, une très très belle journée à passer en famille. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses sympas.
Et généralement, c'est l'ambiance aussi hein, qu'il y a à l'hippodrome, puisque tout le monde dans les tribunes attend l'arrivée des chevaux lorsque c'est une course en ligne droite ou alors même de l'obstacle qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, oui, l'ambiance est vraiment, vraiment très sympathique. Ça, et voilà, c'est vivant et c'est chouette.
Vous parliez du milieu équestre, mais Deauville est aussi réputé pour ses ventes, notamment d'équidés, je ne sais pas comment on dit en fait.
De yearling, des ventes de yearling.
Exactement. Exactement, ouais. Voilà, qui sont le lien directement avec, j'ai envie de dire, la tradition, le terroir et finalement le monde plus contemporain et celui des courses hippiques.
Oui, alors on a plusieurs manifestations équestres, donc les courses d'un côté, ensuite on a les ventes de yearling et on a aussi au Pôle international du cheval qui se trouve à Saint-Arnoult, des concours de dressage, des concours de saut d'obstacles et également aussi, là par exemple, dans le cadre des Equidays, il y aura trois rendez-vous, des démonstrations de horseball, du polo indoor et d'autres choses.
C'est vrai que le polo aussi est présent hein, dans les activités sportives.
Tout à fait.
Et c'est pas commun de le relever. Ce festival là, sur planche contact de la photographie, il démarre bientôt, c'est ça hein, on fait la part belle à la photographie sur tout le territoire de Deauville ou sur l'Interco ou sur un site bien précis?
Non, c'est uniquement à Deauville. Donc il y a plusieurs lieux d'exposition, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc ça débute le 19 octobre et vous aurez accès aux expositions jusqu'au 5 janvier. Donc voilà, il y a plein d'artistes différents qui prennent Deauville sous différents angles. Des ateliers pour les enfants, des stages et des workshops. Et donc cette année, c'est carte blanche à Claude Lelouch, donc, qui aura une exposition à la Villa Strasburgère.
Eh bien, dites-moi, ça en fait tout un programme. Deauville et ses attraits. Est-ce qu'on peut bien sûr obtenir toutes ces informations-là avec un site internet qui doit être très bien fait, j'imagine, très clair et dans moult langues. Quel est-il?
Alors, quel est-il? Il est le suivant, donc c'est www.indeauville.fr.
Et puis, bah, surtout, on peut se rapprocher de vous. Vous êtes aussi avec deux, trois collègues hein, qui sont sur le site. Ouais. Vous êtes sur... Il y a deux grandes tonnelles, hein, deux grandes tentes géantes. C'est celle la plus à gauche quand on est de face. Et voilà, ils sont dans une entrée, vous ne pouvez pas les louper. Et vous pouvez en plus, au-delà de l'information, on l'a dit tout à l'heure, mais gagner des passes pour le Festival du cinéma et puis pour le musée, le Paléo Space.
Le Paléo Space, oui.
Ouais, je l'ai bien dit. Bon, j'avais mis un petit accent.
Il y a aussi le Planétarium à côté, qui est assez sympa pour les enfants, pour découvrir tout ce qui est astronomie.
Eh ben c'est super, merci.
On vous attend nombreux à Deauville, du coup, hein, le cheval, les enfants, c'est vraiment notre envie de vous rencontrer sur Deauville et les alentours.
Je sais pas si le mot plage a été prononcé dans cet échange, mais quand même.
Plage, parasol, plage, aussi, bah ouais, on pourrait dire, oui.
Je crois qu'on l'a pas dit une seule fois ce mot-là dans l'échange.
C'est vrai.
Activité
c'est
enfant même. Plage, on a en entendu.
Ah ouais, d'accord. Très bien, merci beaucoup. Nous
merci Chloé, ouais.
merci à vous,
Marie-Louise.
Nous évoquions le festival de Deauville, mais au-delà de ça, Mireille est partie faire un tour des festivals de cinéma normand. On écoute tout de suite sa déambulation.
Donc voilà, il y a ici là, toute une allée qui présente les différents festivals qui se déroulent en Normandie. Donc évidemment, le plus connu, le plus fameux, c'est le Festival du cinéma américain à Deauville. Et là, j'ai la chance d'avoir quelqu'un à côté de moi qui a déjà été au Festival de Deauville. Alors c'était en quelle année?
Je ne me souviens plus de l'année. C'était il y a quelques années de ça, au moment où Georges Clooney n'était pas encore si célèbre que ça. Mais en tout cas, très beau et très sympathique déjà à l'époque.
Bon, bah, c'était déjà un bon point. Alors, le festival de cette année, hein, je vous rappelle le jury, il y avait Catherine Deneuve, Antoine Baudry, Claire Burger. Enfin, voilà, je ne vais pas tous vous les citer. Mais voilà, ça faisait donc... Ensuite, on a le festival du film à Cabourg. Et là, c'est les journées romantiques. Donc, Bah pareil, tout ça, ça se passe en bord de mer, hein, les pieds dans l'eau et la tête au soleil, on espère, en tout cas. Donc voilà. Alors maintenant à Honfleur, on a un festival du cinéma russe et aussi du cinéma, du film européen à Oulgat. Alors à Caen, on a un festival du cinéma ethnographique. Alors je vous laisse écouter un peu la musique. Voilà, alors heureusement, Marc-Christine qui est à côté de moi me dit c'est la musique du film Mourir d'aimer. Alors ça se passait pas un moment à Honfleur, ça, ou je crois que c'était dans quoi il me semble, mais bon, je suis pas certaine. Alors on a aussi un film, un festival du film canadien à Dieppe, et de très belles affiches d'ailleurs, et un festival du film des villes sœurs. Alors les villes sœurs, ça doit être Le Tréport et Merles-les-Bains, très belle affiche aussi. Et donc ensuite, nous arrivons au festival du film d'Europe centrale et orientale. Et ça, ça se passe en Rouen. Et ensuite, maintenant, on a le festival du film fantastique qui se passe à Rouen aussi. Alors avant, c'était pas festival fantastique, non. Dans mon idée, c'était à Voriaz. Oui. Hein, mais bon, voilà, donc ça a changé d'endroit avec une affiche qui fait frémir, là, voilà, celle de 2018, voilà. Et à Évreux, nous avons aussi notre festival, qui là est le festival international du film d'éducation. Donc là, bien sûr, bah, plus pédagogique, certainement. Donc bah voilà, pour tous les festivals qui se passent en Normandie, ça doit donc en faire une dizaine à peu près.
Hey yo, I want to dedicate this song right here to Oren Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American, and yo, oh what a species of feminine perfection. She got the sinister cat eyes and little freckles on her complexion, cheaper than Yakuza. But she's wicked like Medusa, and she got crazy 88 killers that'll slice right through ya. Quick to chop her head off, then wipe the blood off. Her long-range sniper shot she busts, never let her dud off. You got a minute to pray, and a second to die. You can see the image of the devil reflected inside her eye. But since she was a little girl, yo, she never would cry. She's seen so much tragedy, let me explain to you why. She grew up on a military base where she had to face the brutality of her mother and her father being erased. The blood drops from her teardrops on her cheek. You see the smear spots. She silently watched as the shotgun sliced through her dear pops, through his thick skull. Now she's vicious like a pit bull. And when it comes to hatred and revenge, she got a shit for. Hey yo, she been busting off kneecaps, son, since the age of 11. But fucking an enemy to death, ugh, that was her favorite weapon. In the debt you paid in hell, boy, it can't be paid in heaven. You better get down on your knees, son, and start praying to the reverend. Bon appetit, boy, revenge is so sweet, especially when it's served on a cold dish. But she has no wish but to cut your day short like the winter solstice, and a chance to receive a slight bit of mercy. I was hopeless. Oren Ishii, half Chinese, half Japanese, half American. Oh yeah, oh what a species.
Reza, The Reza avec le titre Ode to Erenchi, extrait de la bande originale du film Kill Bill.
Techniquement, il est très facile d'émettre en modulation de fréquence. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM.
Vous écoutez Principe Actif. Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Principe Actif.
Principe Actif, le mix des cultures.
Nous sommes toujours en direct, en live et en public des fêtes normandes, où vous pouvez d'ailleurs nous y rejoindre. Nous avons fait un tour du côté du tourisme et du cinéma, mais il y a un point sur lequel nous ne ferons pas l'impasse, quoi qu'il arrive à chacune des émissions, c'est sur la partie gastronomie, la partie de nos produits de la bouche. Et s'il existe un symbole en Normandie, c'est bien celui du camembert. Nous recevons donc pas moins que Jean-Marie Combeaufort, c'est ça. Grand maître de la confrérie des camemberts. Bonjour à vous, Jean-Marie. C'est un honneur de vous recevoir pour
Bonjour.
Le coup.
Oh, c'est très gentil, mais c'est un bonheur et un honneur que de participer à cette très belle fête normande d'Évreux.
Je le disais juste là, le camembert est un des symboles de la Normandie, voire même parfois de la France en fonction de comment on l'exporte dans le monde. Ce fromage, le camembert, qui a des appellations d'origine contrôlée, protégée même peut-être,
appellation d'origine protégée.
Où est-ce qu'il se produit? Où est-ce qu'il se situe? Parce que quand on parle d'origine protégée, c'est qu'on est très vigilant sur les produits utilisés et la géographie dans laquelle il est fait.
Tout à fait. Le camembert de Normandie, donc, comme son nom l'indique, est en Normandie, mais plus précisément, on va dire, dans la partie inférieure de la Normandie. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque temps, il y avait une basse et une haute Normandie. Enfin, il y a une Normandie et c'est bien mieux comme ça. Donc, effectivement, on va trouver les 11 fromagers qui font du véritable camembert de Normandie. Ils sont principalement dans l'Orne, dans le Calvados, et il y en a deux dans la Manche. Voilà. Et c'est quelque chose qui va peut-être évoluer un petit peu. On commence à entendre, il commence à se discuter comme on va envahir un petit peu l'Eure et la Seine maritime. Donc, il y a des choses qui vont se faire de par l'INAO.
Et est-ce qu'on pourra toujours parler d'appellation d'origine protégée si on fabrique du camembert dans l'Eure ou dans la Seine maritime?
Oui, bien sûr. Après, il y a un cahier des charges qui est incontournable avec l'obligation d'être avec des vaches de race normande. Il faut savoir qu'en 1996, l'ensemble des AOP normandes, je vais quand même les citer, Livaro, Pont-l'Évêque et le Neuchâtel, avec le camembert de Normandie, ont voulu relancer la race, enfin les vaches de race normande. Et pour cela, il y a des fromagers qui sont même allés chercher cette vache au fin fond de l'Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, en Bolivie.
Les vaches normandes étaient parties en vacances?
Mais on en avait très peu. Il faut reconnaître qu'à la fin des années 90, on en avait très peu. Et la race s'est bien relancée et on continue à œuvrer dans ce sens. Et on a l'obligation, nos producteurs de lait de camembert de Normandie, Livaro, Pont-l'Évêque et Neuchâtel, ont l'obligation d'avancer et d'arriver très bientôt maintenant. On pense que d'ici 3 ou 4 ans, ils seront tous à 100% de vaches de race normande. Une vache qui est quand même assez exceptionnelle, très bonne laitière, et c'est une très bonne bête à viande, comme on dit, même s'il faut manger modérément, enfin plus modérément qu'à une époque, mais c'est une excellente viande.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait actuellement 11 producteurs de camembert.
De Normandie.
Ces camemberts de Normandie, alors j'imagine que sont exclus tous les industriels qui fabriquent à la chaîne des camemberts qui ne sont pas de Normandie, c'est ça?
Pas que.
Mais quand vous parliez de 11 producteurs, de quoi on parle précisément? Est-ce qu'on parle d'artisans qui fabriquent avec, je dirais, certaines contraintes d'artisanat ou finalement c'est juste la provenance du lait?
Alors, non, il n'y a pas que la provenance du lait. Donc, au niveau des fromages normands, c'est une entité qui fonctionne. Il y a les producteurs de lait, il y a les producteurs de camembert. Je ne sais pas si un jour on aura les distributeurs et les crémiers, mais aujourd'hui on est très suivis par les crémiers. On a les restaurateurs qui nous aident bien également. Donc, c'est une filière. Mais au niveau de la production du lait, effectivement, il y a un cahier charge qui est, pour faire simple et pour ne citer qu'un paramètre, c'est fait avec du lait de vache de race normande, comme je le disais, avec obligation de minimum de pâturage de 6 mois. Hein, donc, moi, j'allais dire, en Normandie, vous pouvez voir, il fait beau, il fait soleil, même des fois, plusieurs fois par jour. Donc, c'est quand même, il n'y a pas de gros soucis. Encore que cette année était exceptionnelle. Dans nos prairies en Normandie, on est obligé d'y mettre du foin, voire un petit peu de paille, parce qu'on commence à entamer les stocks d'hiver et ça devient un petit peu plus problématique. Mais donc voilà, il y a ce cahier charge. au niveau des artisans, des fermiers, parce que nous avons deux producteurs fermiers, ils ont tous le même cahier de charge, c'est au lait cru, c'est moulé à la louche, pour citer que ces deux paramètres-là. Donc ce sont des critères forts. Alors après, on va nous dire, oui, il y a peut-être des industriels qui ont, mais les industriels qui ont des activités de camembert de Normandie sont des outils qui sont très artisanaux, où ils acceptent ce cahier des charges et ils l'appliquent, que ce soit les groupes importants tels que, j'allais dire, Beignet, enfin Lactalis, pardon, ou Seventia, des choses comme ça. Mais ils ne sont pas majoritaires aujourd'hui. Et je peux même vous dire qu'actuellement, on œuvre et l'année prochaine, il y aura deux producteurs fermiers de plus. Et qu'en 2021, il y en aura même deux autres de plus, dont un nouveau niveau du village de Camembert, le village Orné.
Est-ce que ça veut dire que justement, il y a une demande de la part des consommateurs de quitter un petit peu le côté industriel et d'être vigilant là-dessus et de se rapprocher du producteur, du fabricant maison, du fait fabriqué à côté, etc.
Oui, bien sûr, c'est une tendance un petit peu générale, effectivement, et c'est une très très bonne chose. Alors après, faut pas être dupe. On pourra pas tout faire. Des produits au lait cru, on est incapable de les produire en grande quantité de par les normes sanitaires. Donc ça sera un gros blocage. Après, il y a un deuxième point qu'il faut prendre en compte. Les produits industriels, les camemberts, entre guillemets, fabriqués en Normandie, qui sont faits en grande quantité, il faut savoir qu'ils sont là aussi pour nourrir une partie des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des camemberts à 4, 5, voire 6 euros. Si je m'approche de Paris, je les trouve à 10 euros. Donc voilà, il y a des gens avec 2 euros, ils préfèrent s'acheter un camembert. Et voilà, il en faut pour tout le monde, il faut savoir le reconnaître. Mais il y a une volonté de retourner aux sources un petit peu. Que ça fait du bien de ralentir notre vie un petit peu. Parce que...
Et puis c'est un savoir-faire aussi, ancestral. Peut-être pas ancestral, mais en tout cas c'est un vrai savoir-faire qui a été développé sur un territoire et qu'il est intéressant de continuer à pratiquer, quoi.
Tout à fait. Marie-Arel, qui était une petite fermière qui travaillait au manoir de Beaumoncel, qui est une très très belle demeure au village même de Camembert.
Près de Vimoutier.
Voilà, près de Vimoutier. Et a créé son camembert au moment de la Révolution. Elle s'est fait aider par un prêtre réfractaire qui venait de l'Abri et plus précisément de Mont, donc où il y a un bon Brie de Mont. Et donc, ils avaient déjà découvert le moyen de faire affiner les produits. Et ça, c'est ce qu'il a apporté à la fromagère, dont à l'époque, le camembert était un produit frais, qu'on mangeait aussitôt fabriqué. Alors que là, il a pu le conserver en faisant développer des moisissures, en laissant développer les moisissures naturelles sur le produit. Et après, la deuxième évolution, c'était à la fin du 19e, voire début du 20e, la création de la boîte par un vimonastérien, enfin quelqu'un de Vimoutier, pardon, je vais tout mélanger, voilà, donc et qui a créé la boîte de camembert et qui fait que cette boîte a rendu le camembert le produit le plus moderne au début du 20e siècle. Et il faut savoir que les fromagers normands avaient eu pour consigne de livrer ce camembert au moment de la Première Guerre mondiale aux poilus sur le front, dont des gens qui étaient partis pour défendre notre pays, et leur récompense, c'était le camembert, et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'en ont pas consommé beaucoup, beaucoup, mais c'était leur plaisir, quoi, on va dire.
Sacrilège de consommer un camembert dans une boîte en carton, c'est en bois d'aulne, en bois de peuplier.
C'est du bois de peuplier, oui. Effectivement, et voilà, oui, c'est un sacrilège, oui, c'est une belle boîte, c'est... produit naturel, le bois de peuplier, c'est facile à recycler, c'est voilà.
Alors justement, comment est-ce qu'on reconnaît un camembert? Parce que un bon camembert, pardon, parce que il est fait, il est pas fait, il est parce que c'est l'avantage de ce produit, c'est qu'il vit sur la durée.
C'est un produit vivant et c'est à chacun d'entre nous, d'entre vous, de savoir comment vous le voulez. Et un camembert, il y a des gens qui ont peur maintenant de le tâter, mais non. C'est-à-dire, comme tout, faut savoir tâter les produits, regarder, savoir comment on le veut. Et bien souvent, d'ailleurs, parce qu'on en trouve maintenant dans la grande distribution, qui vont vous les vendre jeunes, sachez les affiner, sachez les garder. Comme je dis souvent, pliez-le dans du papier journal. C'est pour l'odeur, c'est pas pour autre chose. Vous le mettez dans une caverne, dans un garage, quelque chose qui soit pas très haut en température malgré tout, qu'on dépasse pas les 15 de température. Et tous les deux ou trois jours, vous le tournez. juste pour que l'humidité se répartisse mieux dans le produit. Vous verrez, vous obtiendrez quelque chose qui va vous correspondre complètement parce que c'est vous qui aurez affiné le produit comme vous le souhaitez.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une participation à la fin de se dire, ben voilà, je vais l'aimer comme ça, je vais le partager comme ça, parce que c'est aussi des produits de partage, enfin, le fromage et le camembert en particulier. Voilà, c'est comme beaucoup de produits de bouche, c'est quelque chose qu'on prend plaisir à partager.
Tout à fait. À consommer à plusieurs, autour d'une discussion, autour d'un bon verre de cidre ou d'un verre de vin quelconque, blanc ou rouge, n'importe.
Ou de poiré.
Alors, c'est ma préférence. J'adore le poiré. Le poiré.
Et le cidre de poire. Hein,
c'est cidre de poire et c'est quelque chose qui est vraiment très extraordinaire. Et dans le Dom Fronté, ils font des progrès année sur année sur la qualité de leur poiré. Ça devient un produit fabuleux.
Voilà, région septentrionale du département de l'Orne, Dom Fronté.
Il y a du chauvinisme là.
mais c'est important. On parlait d'appellation d'origine protégée, on parlait tout un tas de trucs. C'est important aussi, c'est que souvent c'est lié à un environnement. La production de certains produits est liée à un environnement. Vous parliez tout à l'heure des moisissures sur le fromage. Bah, c'est lié à un endroit aussi. On n'aura pas les mêmes moisissures en Normandie.
En Normandie qu'à l'Auvergne. Exactement.
Ouais. Et ça fait partie de la façon de faire.
Exactement, tout à fait. Et il faut savoir respecter toutes ces différences qu'il y a sur une simple moisissure. Une moisissure, c'est quoi? C'est un champignon, quelque part. Hein, donc, il faut les accepter. Ils sont de différentes couleurs. Il y en a qui sont grises en Auvergne, comme le Saint-Nectaire. Il y en a qui sont bleues dans le Roquefort. Je ne pouvais pas y échapper à celle-là. Et le camembert, ok.
On disait tout à l'heure, quand même, Jean-Marie a un accent du sud-sud-sud de la Normandie, mais vraiment sud-sud-sud du côté de Clermont-Ferrand, par là, quoi.
C'est tout à fait ça. Je suis aveyronnais d'origine, oui. Et je le revendique aussi.
Sur le camembert, on a compris, voilà, c'est un produit du terroir, vraiment, quelque chose qui fait partie aussi, j'ai envie de dire, de la tradition et de la mémoire aussi d'un territoire. Les producteurs, vous disiez tout à l'heure, 11 sur l'appellation d'origine protégée. Ça va s'étendre, vous le disiez en début d'échange. D'autres producteurs vont rejoindre ces productions de camembert.
Tout à fait.
Moulé à la louche, avec du lait cru, et sûrement tout un tas d'autres techniques, enfin contraintes ou techniques pour pouvoir le réaliser. Finalement, moi je voulais juste là, la question de voilà, maintenant que j'ai mon camembert en main, que j'ai su le choisir, que j'ai su le faire vieillir, vous, Jean-Marie, c'est à quel moment, parce que finalement, des fois, on se dit le fromage, c'est entre le plat et le dessert, mais pas forcément. Vous, il y a une façon d'aborder le camembert que vous voudriez partager avec nous, qu'on essaie. Par exemple, il y a le mariage camembert-pomme qui se fait assez bien. D'autres produits avec lesquels le camembert se mélangerait bien?
Alors, d'autres produits, oui. C'est un produit qui est facile à cuisiner également. On est capable de faire de très, très bonnes sauces normandes à base de camembert de Normandie. Un petit peu de crème, un petit peu de camembert, ça devient excellent. Tout à fait, il ne faut pas hésiter à l'utiliser en sauce. J'ai connu une expérience à le passé. C'était un pâtissier qui m'avait invité sur Argentan et qui avait fait un camembert au chocolat. Je lui avais dit stop. Un camembert, ça peut être un petit peu amer. Le chocolat est amer. Il y a des fois, il y a des choses qui ne se marient pas. Faut pas faire non plus n'importe quoi. Mais après aussi, à chacun de trouver les bons dosages, peut-être. Hein. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avec ce produit-là. Mais un bon camembert, quand même, entre la viande et le dessert, c'est quand même bon.
Très bien, merci beaucoup à vous.
Si je peux je rajouterai juste une chose, c'est que la confrérie du camembert, nous œuvrons à défendre et au niveau du patrimoine, vu que nous avons un projet qui est dans un lointain, dans quelques années, c'est d'inscrire au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Et déjà, nous avons le soutien au niveau du PCI français, c'est-à-dire que le ministère de la Culture nous aide, nous donne une petite subvention pour qu'on puisse œuvrer dans ce sens. Et j'étais cette semaine à une réunion des PCI à Vitré, en Bretagne, où on a rencontré des gens du cinéma, de toutes sortes de cultures. Et ça fait quand même plaisir de voir que nous sommes dans cette branche-là. Même la gastronomie se rapproche un petit peu du culturel, immatériel, et voilà, nous œuvrons.
On retrouve le camembert dans le cinéma ?
On le retrouve, rappelez-vous, il y en avait un qui avait même fait une publicité, Bernard Blier quand même, qui était une publicité pour un produit fabriqué en Normandie, mais bon, qui avait amené son personnage. Mais on peut voir souvent des films où on voit justement des gens qui sont autour d'un camembert, oui, tout à fait.
Merci beaucoup à vous, Jean-Marie Combeffort. Non, je prononce peut-être pas bien. Combeffort.
Combeffort.
Combeffort, excusez-moi.
C'est pas grave.
Grand maître de la confrérie des camemberts. Merci beaucoup pour cet honneur.
C'est avec grand plaisir et merci de votre accueil.
Monsieur Pignon, je me retourne vers vous à la technique parce que nous parlions d'aliments. Il y a un aliment sur lequel notre ami Jean-Jean a été faire un reportage. C'est sur la spiruline. On vous laisse le découvrir.
Moi, je suis intrigué par la spiruline.
Oui.
Alors, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est que la spiruline des Vikings.
Alors la spiruline, c'est une microalgue qui existe depuis très longtemps, depuis 3 milliards d'années en fait. Elle a contribué à développer la couche d'ozone sur Terre, car c'est le premier organisme en fait qui a utilisé la photosynthèse. Mmh. Donc elle a mangé le gaz carbonique afin de redonner de l'O2 et ça crée la couche d'ozone. Donc c'est l'aliment le plus complet au monde en fait d'après l'Organisation mondiale de la santé.
Oui.
On retrouve beaucoup de choses dedans, toutes les vitamines hormis la vitamine C. On a tous les oligo-éléments, tous les minéraux. On retrouve aussi une molécule qui est très rare, la phycocyanine. La phycocyanine permet d'augmenter la production de globules blancs. Mm-hmm. Donc c'est très bon pour le système immunitaire. En fait, il y a mm-hmm. les hôpitaux de Nice et de Toulouse qui sont spécialisés contre le cancer.
Et qui l'utilisent.
Exactement. Ils préconisent à leurs patients de le prendre pour diminuer les effets de la chimio sur le système immunitaire.
Donc c'est un super aliment bénéfique pour le corps humain, pour nous, les individus. Alors
exactement.
Je vous dis ça parce que j'avais peur que ce soit une maladie ou un accident, quelque chose de grave, puisque comme on est voisin de, on est juste à côté, voilà, au pied du beffroi, pardon. Et vous êtes notre voisin. Il faut toujours se mettre bien avec ses voisins, on ne sait jamais.
Exactement.
En plus, on peut faire garder le chien quand on part en vacances, etc.
Et ben voilà.
Voilà.
Moi, je veux en du bien-être, donc je vous veux que du bien. J'aime mes voisins.
Merci. Merci pour toutes ces précisions.
Et ben de rien, avec plaisir. Bonne journée.
Some foolish thing about, 'cause I'm just a soul whose intentions are.
Don't Let Me Be Misunderstood de Santa Esmeralda. Merci pour ce choix imprononçable, Monsieur Pignon.
Nous avons essayé de créer une chaîne d'un ton et d'un style très jeune.
Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Vous êtes toujours avec nous en direct, en live et en public des fêtes normandes. Nous nous sommes installés au pied du Beffroi. Et cette année, les fêtes normandes ont pour thème le cinéma. Alors voilà, on a durant tout ce week-end été fouiné, chiné un petit peu sur toutes ces techniques du cinéma. Et maintenant, nous recevons Christophe Corbin de Ciné Event, qui est un spécialiste du bruitage et du doublage. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors comment ça se passe pour vous là? Vous êtes sous la tente et je vois que la tente, il ne cesse de passer des gens qui viennent manipuler, essayer. Et c'est bien ce que vous proposez vous sur votre espace.
Tout à fait, tout à fait. Nous sommes spécialisés dans l'animation sur le thème du cinéma. Donc nous avons ici sur ces fêtes normandes 4 ateliers différents. Un atelier doublage où chacun vient s'exercer aux techniques du doublage, c'est-à-dire il y a la fameuse bande rythmo. La bande rythmo, c'est le texte qui défile sous le film et qui permet donc à nos acteurs en herbe, de s'essayer au doublage.
J'ai vu hier notamment une famille qui redoublait L'Âge de glace.
En effet,
une des séquences et c'est très drôle et on avait la sensation, alors je sais pas à quel moment du travail ils en étaient quand je suis passé, mais j'avais l'impression qu'ils s'en sortaient super bien, enfin avec une aisance. Alors qu'ils ne sont pas professionnels du doublage.
Et tout à fait, oui. C'est grâce à cette bande rythmo qui est en rythme avec le film, eh bien, il suffit de bien maîtriser la lecture et à n'importe quel âge, on peut s'y essayer. Alors, bien évidemment, lorsqu'on est comédien ou lorsqu'on a l'âme du comédien, c'est plus facile. Mais on a découvert quelques talents cachés ici hier déjà.
Oui, parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect effectivement technique où il faut être sur le rythme, être dans le tempo de ce qui a été filmé. Mais il y a aussi la partie jeu. En fait, la voix, c'est aussi un jeu de comédie.
Bien évidemment. Alors là, le gros avantage qu'ils ont, nos participants, c'est qu'ils ont ils peuvent s'appuyer sur l'interprétation qui a été donnée déjà une première fois. Lorsque nous sommes comédiens et que nous devons doubler pour changer par exemple le langage, passer de l'américain à l'anglais, au français, pardon, l'américain à l'anglais au français, là bien évidemment on réinterprète complètement. Là on peut s'appuyer quand même sur la première interprétation des comédiens.
Du coup, quand on refait un doublage issu d'une autre langue, j'imagine que pour rentrer dans les mouvements de bouche, dans les intonations de visage, il y a des lettres, quand on fait un I par exemple, c'est tellement évident que c'est un I qu'il est difficile de faire autrement, j'imagine.
Vous avez complètement raison, mais là c'est un autre métier, c'est un autre travail, ce n'est pas le travail du doubleur, c'est le travail d'une autre personne qui va encoder, qui va écrire les textes, il y a un travail de réécriture et d'adaptation pour pouvoir que le labial, ce qu'on appelle le labial, corresponde au texte.
Il y a certaines langues, d'ailleurs, je me souviens avoir vu des films coréens doublés en français, j'imagine que la façon de parler étant tellement différente que ça en devient n'importe quoi.
Oui, tout à fait. Et puis bon, on a aussi les éternels feuilletons mal doublés qui restent quand même dans les mémoires de chacun.
Ouais, quand même.
Mais aussi, des fois, il y a certains films vieux. Enfin, moi, je suis une cinéphile. Les vieux films, par exemple, avec Cary Grant, tout ça, qui ont été redoublés. Et là, c'est affreux d'écouter ça parce que c'est plus du tout la même voix des acteurs qu'on a l'habitude d'entendre. Et du coup, je préfère les écouter, les regarder en sous-titré plutôt que de les réécouter avec des voix différentes parce que ça, c'est affreux d'écouter ça comme ça.
Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Rien ne vaut effectivement l'interprétation originale du comédien original. Il faut savoir que lorsqu'un comédien doubleur a la chance de débuter sur un petit film avec un acteur qui va devenir un grand acteur, bien souvent on garde le doubleur à vie.
Donc, c'est ça.
Voilà, donc le premier qui a doublé Bruce Willis par exemple en France, c'est Jackpot parce qu'il a fait tous les grands films de Bruce Willis et c'est pareil pour Sylvester Stallone.
Alors c'est Jackpot mais il ne pourra plus jamais rien faire d'autre.
C'est ça.
C'est aussi les liés à la carrière du comédien.
C'est vrai, c'est vrai. Quand les comédiens sont trop connus, effectivement, ils sont étiquetés, ils ne peuvent plus.
Ouais, vous abordiez.
On reconnaît leur voix dans des documentaires ou d'autres. On dit tiens, ça c'est la voix d'un tel, ou dans des pubs aussi des fois.
Moi, je me souviens de Jacques Balutin que vous ne connaissez peut-être pas, mais Jacques Balutin avait effectivement, il a fait je ne sais pas combien de comédiens américains. Il c'était la voix de Starsky dans Starsky et Hutch.
Alors, on parlait du doublage. Il y a aussi le bruitage.
Ah oui, alors là, c'est une autre technique. Les bruiteurs professionnels, dont nous ne sommes pas. Hein. Là, nous sommes animateurs. Nous sommes là pour donner du plaisir aux gens. Nous ne sommes pas bruiteurs professionnels. Mais je vous ai amené quand même quelques petits accessoires pour vous faire une petite démonstration. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que...
Bon, on va essayer. Hein.
Bon, on essaye, on verra bien.
Je vais voir avec mes collègues s'ils peuvent vous tenir le micro haut parce que peut-être vous avez besoin de demain. Bah oui, vous voyez.
Merci
beaucoup. Et puis ce sera plus simple. Voilà, micro et tout. On va vous mettre en son et puis vous allez nous expliquer en amont ce que vous allez proposer.
On va démarrer juste un petit feu de camp. Voilà, là en ce moment en fait c'est les brindilles qui sont en train de s'enflammer. Et en fin de compte, à la main, seuls ceux qui sont autour de moi peuvent le voir. J'ai tout simplement un petit morceau de plastique de festif, hein, on dirait une perruque en fait, une perruque en plastique. Et puis...
C'est impressionnant, effectivement, parce que nous, on vous voit, mais si on ferme les yeux, effectivement, on est à côté du feu de camp.
On y croit, tout à fait. Et puis alors, il y a, bien évidemment, là sur le stand, on fait en sorte de trouver des choses qui amusent un petit peu les enfants. Et donc, on a un petit combat d'épée. Alors, je vais vous simuler le combat de Fleuret. Et à la fin de l'envoi, je touche.
Et donc là, c'était un fouet de cuisine.
Un fouet de cuisine et une palette en ferraille. On peut prendre tout, n'importe quoi, hein, n'importe quel objet qui est un petit peu sonore. On écoute, on fait des tests et puis on voit à quoi
ça voit ce que ça donne. Tous les films ont des ajouts de bruitage parce que quand on regarde un film, on pourrait se dire c'est le bruit naturel des choses qui se passent. Et puis l'ingénieur du son a peut-être un peu travaillé les courbes de son, mais finalement, on aurait la sensation que c'est du bruit naturel.
La plupart du temps, ce sont des bruits naturels. C'est effectivement le preneur de son sur le tournage qui va faire les prises de son naturelles et directes. Et puis des fois, ce n'est tout simplement pas possible parce qu'il y a trop de bruit sur le tournage. On est par exemple dans une voiture décapotable. Dans une voiture décapotable, vous n'entendez rien d'autre que le vent. Hein. Donc si on a besoin de rajouter un bruit pour accentuer un petit peu ce qui se passe à l'image, là on utilise le bruitage.
Il y a des classiques du bruitage, on m'a toujours dit, moi, dans les westerns, c'est les coquilles de noix de coco pour faire le bruit des sabots, par exemple. Il y a d'autres classiques comme ça ?
C'est vrai que ça n'a pas changé, hein, mais chaque bruiteur a ses petites combines qu'il garde en général pour lui. Et puis, il arrive dans le studio de prise de son avec une grosse valise. Et puis, bien souvent, il arrive, il ne sait pas vraiment ce qu'il va falloir faire. Et il improvise avec ce qu'il a, quoi.
C'est un métier qu'on fait à l'expérience, bruiteur, ou il y a des écoles de bruiteurs ?
Eh bien, à ma connaissance, non, je ne crois pas qu'il y ait d'école de bruiteurs. C'est le son, hein. L'école, c'est le son, donc c'est sonorisateur, sondier, comme on dit maintenant. Et puis effectivement, c'est l'oreille, hein. C'est surtout des gens qui ont une très très bonne oreille.
D'autres choses à découvrir sur votre espace Cinevent ?
Eh bien oui, nous avons donc quatre ateliers. On a parlé du doublage et du bruitage, mais nous faisons aussi un atelier effets spéciaux sur fond vert, hein, dit chroma key. C'est-à-dire qu'on va filmer des personnages, des enfants, beaucoup en ce moment là, des enfants, mais aussi des adultes. Et on les fait voler au-dessus de New York habillés en Superman. En fait, ils sont simplement sur un plot vert, sur un fond vert. Et puis on intègre les images de New York qui défilent derrière eux.
C'est globalement la technique, si on soustrait le verre de la vidéo pour pouvoir faire un fond transparent et incruster n'importe quelle image.
Exactement. Alors c'est beaucoup plus facile aujourd'hui avec les techniques informatiques, bien évidemment. Mais le premier à avoir fait ça, je crois qu'il s'appelait Georges Méliès. Voilà.
Et puis le quatrième atelier ?
Eh bien, le quatrième atelier, c'est un atelier photo où on a un stand photo et là, on transforme les visiteurs en stars d'un jour et on les intègre à la première page d'un grand magazine de cinéma.
Ah oui, parce que le cinéma, c'est ça aussi.
Et bien
c'est
sûr.
C'est tout ce qui va avec. C'est, d'ailleurs, on voit bien, chaque festival a un beau tapis rouge, des photographes. Il y a un côté magique au cinéma, un côté rêve, aussi bien dans le film qu'on va voir que finalement dans la vie des comédiens que nous fantasmons peut-être, mais en tout cas dans leur vie, quoi.
Et oui, je crois que c'est ça la magie du cinéma. Elle passe par là aussi, oui.
Sur ces échanges avec les familles, les enfants, les passants sur ces fêtes normandes, globalement, c'est quoi les réactions, et notamment des enfants, parce que souvent, c'est des réactions assez directes, les réactions des enfants. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont interpellé sur le week-end?
Écoutez, j'ai pas d'anecdote là qui me vient en tête, mais ce qu'on ressent, c'est un climat très familial, très sympathique, des gens charmants. Et voilà, nous faisons beaucoup d'animations comme cela sur les dans les centres commerciaux, etc. Et là, ça nous change un petit peu. On a des gens fort sympathiques et ça nous fait du bien. On est en week-end.
Mais ils sont moins pressés aujourd'hui.
C'est ça, tout à fait.
C'est-à-dire que si on peut faire un doublage d'un quart d'heure, 20 minutes, et ben on fera un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on a envie de s'amuser.
Exactement.
Très bien, merci beaucoup Christophe Corbin de Cinevent sur ces techniques du cinéma et ce qui est un petit peu derrière l'écran, derrière le voile mystérieux de comment nous faisons les choses. Justement, c'était, je ne sais pas si c'est Mireille ou Jean-Jean, c'est toi Mireille qui a été tournée les super-héros justement en famille. Non, c'est l'ami Jean-Jean qui a été laissé traîner son micro du côté des super-héros qui survolaient la ville. On écoute ça.
De voir un spectacle de super-héros là, comment vous avez trouvé ça?
Super.
Super, héros. Et tu peux m'en dire davantage? C'était quoi? Moi je viens d'arriver. Tu peux m'expliquer ce que tu as vu là?
Un show.
Ouais.
Qui? Des super-héros.
Alors il y avait qui donc dans les super-héros?
Il y avait Flash, Wonder Woman, Batman, le Joker et Superman.
Ça a duré combien de temps? T'as pas vu le temps passer en fait, c'est ça,
hein? Une dizaine de minutes.
Ouais. Ça a plu aux parents aussi?
Ouais, c'est super, sympa, super. Ils mettent l'ambiance et puis ils sont acrobates. Hein.
Qu'est-ce que vous pensez de l'idée justement de proposer des choses comme ça sur des fêtes normandes?
Nous, on a fait une heure de route exprès pour venir, donc on est ravis. Il y a le rayon de soleil, donc c'est parfait.
Et vous arrivez d'où?
De Normandie.
Près de Côte-Bec, ouais.
D'accord.
Donc ouais, un petit bout de chemin, mais bon, on espérait être ravis au bout et c'est le cas, donc c'est super. Et il y a tous les ados avec, donc ils vont avoir passé une bonne après-midi.
Et à part donc le spectacle des super-héros, qu'est-ce qui vous plaît aussi dans ces fêtes normandes? Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement?
On est passé voir dans les chapiteaux, il y a tous les métiers du cinéma. Hein, là, ils ont fait des bruitages.
Tu as participé à des ateliers?
Oui.
Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait?
On a fait les bruitages.
Alors c'est quoi les bruitages dans le cinéma? Ils vous ont fait faire quoi?
Les explosions, les combats, tout ça.
Et c'est des vraies explosions? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire des explosions par exemple?
Des objets ou des outils.
Ouais.
Pour faire du bruitage, du son.
Et tu savais que c'était comme ça justement quand on faisait des doublages de films?
Oui, j'ai déjà vu ça.
Ouais. Bon, ça t'a plu alors?
Oui.
Ok, merci à vous.
Merci.
Bonne fin de journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Salut les garçons, vous avez vu le spectacle?
Ouais.
Oui.
Alors dites-moi, comment vous avez trouvé ça?
C'était trop trop bien.
Bon, explique-moi, qu'est-ce qui était bien?
Bah, quand ils se sont battus, les saltos. Et à la fin, la danse, j'ai adoré.
Et qui se battait avec qui? C'était qui?
C'était Spider-Man, Superman, Joker, Wonder Woman qui se battaient. Y avait 4 personnes contre une.
Mais c'est les vrais ou alors c'est des acteurs ou des cascadeurs?
C'est des acteurs.
Et t'aimerais bien faire ça, toi, quand tu seras grand?
Oui.
Vous aimeriez bien travailler dans le métier du cinéma?
Oui.
Ouais?
Ouais.
Pas trop sûr, mais ouais.
Je peux dire leur nom?
Ouais, vas-y, dis le nom.
Il y a Diana Wonder Woman, Clark Kal-El Superman.
Et qui encore?
Flash, je sais pas encore.
Ouais.
Et Batman, Bruce Wade.
Ah, on ne connaît que lui. Merci.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
de faire le grand saut extrême là, t'as pas eu peur?
Non.
Non?
Non.
Voilà, et raconte-moi, parce que moi je t'ai vu là de tout à l'heure, tu es resté combien de temps là-haut? Fallait attendre combien de temps?
Je sais pas moi.
Il t'a demandé de sauter, t'as sauté tout de suite?
Oui.
Ouais. Et t'as pas réfléchi, rien du tout? Ouais. Il y avait combien de mètres?
Je sais pas, peut-être 2.
2 mètres en hauteur? Et ça fait haut quand on est là-haut là? On
n'a
pas peur?
Non.
Non? Bon. Et je t'ai vu sauter pratiquement comme un cascadeur professionnel.
Je sais pas moi.
Tu t'en es pas rendu compte?
Non.
Je t'ai vu comme ça, t'as pris ton envahi ou quoi? Comment il faut faire pour bien sauter?
Bah tu mets ton pied de force, enfin en premier tu balances l'autre et tu tombes.
Voilà. C'est ce qu'on t'a dit de faire?
Et puis... Oui, et puis après tu mets tes mains croisées quoi.
Enfin, mais si on est droitier, par exemple on met le pied gauche devant, le pied droit, quand il dit go, on doit shooter comme un ballon.
Ouais.
Et quand on atterrit, on doit mettre les mains...
Sur les épaules?
Oui.
D'accord, croisées. Et c'est ça, c'est la bonne technique?
Oui.
Et là, on peut sauter comme un cascadeur, alors?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Bon, c'était la première fois que tu l'as fait aussi, toi?
Oui.
C'était la première fois que vous faisiez ça?
Oui. Oui.
Ouais?
Ouais.
Et vous avez envie de le refaire?
Ouais. Oui, juste qu'il y a trop de queue. Oui.
Ah, il y a beaucoup de monde?
Oui.
Ok.
On a attendu 1 heure pour la première fois, à peu près.
Ah ouais. Bravo. En tout cas, bravo. Félicitations. Super. Merci.
Et c'est ainsi que s'achèvera l'histoire de notre première heure d'émission radiophonique à l'occasion des fêtes normandes. Bien entendu, oui. Vous pourrez trouver la revanche de cette première émission,
oui.
Donc l'émission 2 à partir de 15h sur cette même antenne, pour notre plus grand plaisir. Nous poursuivrons aller à la rencontre de ceux qui font le cinéma, de
oui.
ceux qui font la gastronomie régionale, de ceux qui font cette Normandie. C'était beau, hein?
Oui,
voilà. Restez à l'écoute de nos programmes dans un petit instant. C'est le Flash Info RFI sur cette antenne. On sonne rendez-vous à 15h avec l'ami Damien au micro, l'ami Jean-Jean au micro et au reportage, l'ami Pignon au micro, au reportage, aux claquettes et à la réalisation. Vous allez voir, ça va être exceptionnel.
12h30, on n'oublie pas aussi le canard siffleur mexicain sur notre antenne. Un nouvel épisode.